Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire.
Hey. Bonjour Audrey, comment ça va?
Salut Matt, ça va et toi?
Ça va bien. De la minute qu'on commence, j'ai remarqué dans ton visage, dès qu'on commence et que je te dis bonjour Audrey, oh, le sourire, il vient, t'es toute heureuse de commencer l'émission. Je me suis pas fait une idée, t'es heureuse de commencer l'émission.
En vrai, je suis super heureuse d'enregistrer, de te voir parce qu'on se voit pas assez souvent, je trouve. Uh-huh. Et puis, ça me fait rire parce qu'on parle toujours un peu en off avant d'enregistrer. Ouais. Et du coup, on repart comme si on venait de décrocher, donc ça, ça me fait rire, c'est tout.
Ouais, effectivement. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, l'avant-dernier de l'année. D'Apple différemment. On va parler de plusieurs sujets. Mais avant, on voudrait peut-être remercier les contributeurs des mois précédents qui ont fait des dons parce que on vous l'a dit en début de l'année, on s'était fait une promesse, 2 émissions par mois à condition qu'il y ait des dons. Alors, il y a des gens qui ont généreusement fait des contributions. Alors, on veut les remercier. Je te laisse la parole.
Oui, au mois d'octobre, vous avez été très nombreux à nous faire des dons, donc je voulais remercier, accompagné de Matt, bien sûr, Daniel, Bernard, Yves, Sylvia, Clément, Frédéric, Cyril, Chantal, Julien, Benoît, Viviane, Alexandre, Anne-Kim, Isabelle, Eric, Claude, Michel, Olivier et Frédéric, merci d'avoir soutenu le podcast au mois d'octobre.
Merci infiniment, vous nous avez permis d'acheter des fois des doudous, des chaussettes, des billets pour aller voir des choses avec notre famille. Alors, merci beaucoup. On vous met un petit peu dans le secret. On réfléchit à quelque chose d'autre pour 2024. On vous reviendra en début de l'année, mais on commence à réfléchir à des choses pour 2024. Alors, ces dons-là proviennent du fameux gros bouton jaune qui est sur le site applediff.com. N'hésitez pas à continuer et à nous encourager pour avoir 2 épisodes par mois. Un autre truc qui nous fait beaucoup plaisir, c'est les chauds commentaires qu'on peut recevoir. Alors, on en reçoit par mail, on en reçoit dans les médias sociaux, mais ce qui nous fait vraiment surkiffer, c'est de voir les étoiles apparaître sur iTunes. Et on a reçu 2 beaux commentaires qu'on va vous partager avec vous. Alors, le premier, Audrey, je vais te laisser le dire.
Oui, alors c'est un message sur Apple Podcast de Gab101. Nous dit « Super podcast, salut Matt et Audrey, j'ai écouté votre podcast sur l'autonomie de l'iPhone. Vous avez raison, sauf sur un point, hashtag avis personnel, j'ai un iPhone 6S avec 63% de capacité maximum, de batterie donc. Quand j'ai installé iOS 15, la perte d'autonomie n'a pas été que temporaire, en 2 semaines j'ai perdu 6%. Merci de m'avoir fait découvrir Coconut Battery. Heureusement, je vais bientôt avoir un iPhone 11, sinon continuez vos podcasts. J'ai enfin mon iPhone 11 et la batterie va nettement mieux. »
Oui,
oui. Ah bah oui, 63% de capacité restante, il est temps de la changer depuis longtemps. Je ne sais pas, j'ai déjà eu plusieurs témoignages de gens qui me disaient que suite à une mise à jour, ils avaient perdu des pourcents par-ci par-là. Alors je pense plutôt que le fait de mettre à jour le système de votre iPhone, donc iOS, je pense qu'il en profite pour recalibrer l'état de la batterie et pour vous donner un chiffre plus proche du réel que ce qu'il en était avant. C'est ce que j'ai lu sur des articles assez techniques sur le sujet, parce que j'ai pas mal potassé le sujet là avec iOS 17. Et en gros, c'était à chaque fois qu'on fait une grosse mise à jour de iOS 17, tout est recalibré, dont la batterie, et ce qui fait que le pourcentage en fait qui s'affiche après la mise à jour est le pourcentage réel. Il y aura forcément des gens qui vont dire que je suis fanatique d'Apple et que je défends Apple à tout prix, mais bon, là c'est plus une question technique, et je pense que c'est ça. Après, voilà, 63% de capacité restante pour une batterie, je pense qu'elle avait montré des signes de faiblesse bien avant d'installer iOS 15.
Comme on dit, elle était due. Deuxième commentaire qui nous vient de Waouh! Alors, encore une fois, 5 étoiles. Merci beaucoup pour ce podcast de très bonne qualité. Le discours est simple et efficace, accessible à tous. Je vous écoute en voiture et vous réponds en mode « Oui, bien d'accord avec ça ». Merci de rendre mes trajets plus courts et plus agréables. Merci pour votre travail. Merci à toi. Waouh! Ça fait
merci
chaud au cœur.
Merci pour vos messages.
Il y a beaucoup d'automobiles, hein? Il y a beaucoup d'automobilistes qui nous écoutent. Alors, on est content de vous accompagner dans vos trajets. On va passer à la section Quoi de neuf chez Apple, Audrey? Est-ce que tu as envie d'aller dans cette section-là?
Allons-y, je te suis.
Bon, Apple a remis dernièrement des prix. À chaque année, Apple le fait. C'est aussi au niveau des habitudes de beaucoup de développeurs. Et il y avait des nominés il y a quelques semaines. Et là, c'est tombé les grands gagnants pour les applications les plus appréciées de 2023. Alors, je vais vous les donner. Moi, j'en connais quelques-unes dedans c'est vrai que c'est des belles applications. La première, sur iPhone, sur l'application, c'est AllTrails. Alors, AllTrails, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour les sentiers en forêt. Alors, typiquement, on l'utilise. Et puis, sur une carte, vous pouvez voir tous les sentiers que vous pouvez faire dans votre entourage ou quand vous êtes en voyage. C'est intéressant de voir les sentiers que vous pouvez faire. Et bien souvent, les gens peuvent prendre des photos d'un lieu dans ce sentier-là ou dans cette marche-là que vous pouvez faire pour voir quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est une très belle application. Il y a une version payante, mais la version gratuite il y a une version in-app. La version gratuite va très, très bien. Est-ce que tu la connaissais, cette application-là?
Non, pas du tout. Est-ce que sa référence, c'est les chemins de quel pays?
Alors, typiquement, je sais très bien que chez nous, ça fonctionne, mais effectivement, il faudrait vérifier si c'est disponible en France, hein, effectivement. Je pense même que c'est la réflexion, là, les meilleures applications, est-ce que elles fonctionnent juste dans mon pays ou aussi en France? Faudrait vérifier. Mais dites-nous si vous l'utilisez, cette application-là. C'est une application qui catégorise les sentiers, les marches que vous pouvez faire, et puis avec des niveaux de difficulté. Alors moi qui ai des enfants, c'est intéressant parce que je peux prendre des pistes un peu moins longues, plus faciles, avec plus de choses à voir et je le sais d'avance grâce à cette application-là.
D'après ce que je vois j'ai cliqué sur le lien de l'appli, il y a à peu près 400 000 trails, donc 400 000 randonnées à travers le monde. Donc je pense que ça marche aussi pour la France. Il faudra que j'essaye ça. Après, c'est vrai que des applis de randonnée, il y en a pas mal...
Ouais.
Et il y en a des très locales. En plus, moi, je sais qu'il y en a une pour ma région. Donc, mais c'est cool. Pour le monde entier, c'est cool pour les grands voyageurs.
Effectivement. Et pas forcément les grands voyageurs. Moi, je suis un petit voyageur qui reste dans mon coin et des fois, je découvre des trucs avec mes enfants. Alors, ça peut être intéressant.
Faut jamais aller très loin pour faire des belles découvertes. Hein.
Ouais, absolument, absolument. Deuxième application, la gagnante sur iPad, c'est Prêt à Make-up. Alors, c'est une application, alors je la connais pas, j'avais pas l'intérêt de l'utiliser, mais visiblement, c'est une application, et je suis très étonné. Puis j'aimerais avoir ton avis sur ça. Prêt à Make-up, une application pour du maquillage, pour nous aider à trouver les arrangements ou trouver les teintes de peau qui vont mieux avec certains maquillages, c'est la gagnante de l'année. Je trouve ça curieux de chez Apple de sortir cette application-là, Prêt à Make-up, comme étant la meilleure ou la plus aimée. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors, je ne suis pas très cliente de ce genre d'application parce que je ne me maquille pas, mais je pense que ça peut aider pas mal de créateurs, si tu veux. Ouais. De créateurs et puis le make-up, le maquillage, c'est quand même sur les réseaux sociaux, c'est quand même il y a beaucoup beaucoup de vidéos sur ce sujet, hein. Donc moi ça m'étonne pas plus que ça de l'avoir dans ce classement.
La deuxième, sur Mac, Photomator, une application de création. Alors moi, pour l'avoir utilisé, effectivement, je suis tout à fait d'accord que c'est une belle application de création, d'édition de photos, plus style amélioration de photos, pas comme Photoshop où on peut faire des... en tout cas, moi, je l'ai pas utilisé dans ce sens-là, là, où on peut faire des montages ou des maquettes. Là, c'est vraiment plus pour de l'amélioration de photos. Est-ce que tu l'as déjà utilisé, Photomator?
Oui, oui, oui. Ça fait des années, ça fait très longtemps qu'elle existe, cette appli. Mm-hmm. C'est une référence, hein, un peu comme Affinity Photo. Photomator. Puis je pense qu'elle est assez simple à utiliser par rapport à un Photoshop. Donc, ouais, c'est cool. Photomator, c'est une bonne appli.
Deuxième application, c'est sur l'Apple Télé. Sans surprise, une appli- et sans surprise et en même temps, oui et non. Parce que j'utilise de plus en plus sur l'Apple Télé, on en parlera dans d'autres épisodes, des fonctionnalités de l'Apple Télé, comme le karaoké. Mais là, sans surprise, c'est l'application Mubi, M-U-B-I, une application de stream pour l'Apple Télé. C'était un peu cohérent d'avoir ce genre d'application-là. Je suis surpris de ne pas avoir un grand joueur comme Netflix ou comme Amazon Prime. C'est très drôle, c'est très curieux. Et puis la dernière, ben, c'est sur l'Apple Watch. L'application qui a gagné le prix, c'est Smart Gym, Gym and Home Workout. C'est pour vous préparer, vous créer des sessions de sport personnalisées grâce à l'Apple Watch et pour faire certaines routines au niveau du sport. Alors, c'était les gagnants de cette année. Je suis un peu mitigé par rapport aux gagnants parce que même dans les finalistes, parce que j'ai suivi ça, tu sais, de par ma chaîne, j'ai beaucoup d'applications, alors je suis ces trucs-là quand il y a des nouveautés au niveau des applications. Et je suis un peu mitigé sur les finalistes, et là, je suis un peu mitigé sur les gagnants. Moins que l'année dernière. All Trails, là, je l'avoue, moi, je l'aime bien. Mais les autres, je pense qu'il y avait... En tout cas, j'en vois beaucoup passer, puis il y avait peut-être des choses un peu mieux que ça, mais bon, on va dire qu'on est content.
Après, pour l'Apple TV, tu vois, l'appli de Netflix, elle n'a pas changé depuis des années et des années. Il n'y a pas vraiment d'effort, tu vois. L'autre jour, je vais râler parce que autant dans l'application Apple TV+, tu peux voir dans la fiche de ton film, tu peux voir les acteurs. En cliquant sur leur nom, tu vas voir tout ce qu'ils ont fait. Et en fait, sur Netflix, t'as l'impression que c'est encore la vidéo à la demande comme il y a 5 ans ou 10 ans où t'as que les deux acteurs principaux et tu peux pas cliquer sur leur nom. Enfin, il y a pas d'interactivité, je trouve. Faut tout le temps utiliser la recherche constamment. Donc Mubi, là, je pense qu'ils ont été choisis parce que d'après les captures que je vois, elle a l'air quand même beaucoup plus avancée, leur appli, que ce qu'on a sur Netflix ou Disney+, qui sont assez basiques, je trouve.
Moi, je suis confronté sur ces applications-là à une frustration permanente. Alors, tu sais qu'on est au Québec. Une exception en Amérique du Nord, on parle le français. Alors, il y a d'autres provinces au Canada, il y en a certaines bilingues, mais majoritairement francophones, c'est le Québec en Amérique du Nord. Et quand je suis sur l'application Netflix, je vois le titre en français, je vois le descriptif en français, et quand je rentre dans le film, merde, c'est tout en anglais, il n'y a pas moyen de changer la langue. Alors, j'aimerais qu'un jour quelqu'un m'explique chez Netflix pourquoi vous faites ça. Et pour éviter cette frustration-là, pourquoi Netflix ne marque pas quelle est la langue disponible quand tu regardes tes films au lieu de devoir toujours rentrer dans le film pour voir la langue? Ça, c'est un truc qui est un peu emmerdant, je trouve, chez Netflix.
Alors, j'avais un peu le problème avec Apple TV+. À chaque fois que je mettais un épisode de The Morning Show, c'était tout le temps la langue d'origine. Et je devais tapoter sur la télécommande, aller dans la petite bulle texte et puis choisir la langue. Et en fait, dans les réglages de l'Apple TV, dans les réglages généraux, tu vas dans Apps, tu prends le nom de l'app et là, tu peux choisir la langue par défaut. Donc, essaye de voir si tu peux, s'il y a Netflix. Et il ne faut pas hésiter à aller fouiller dans les réglages de l'Apple TV parce que des fois, des réglages qu'on s'attend à trouver dans l'application, en fait, on le trouve dans les réglages et puis dans l'application nommée. Tu me diras.
Oui, parce que en ce moment, je dois régler plusieurs Apple Télé et je vous expliquerai pourquoi dans un autre épisode. une actualité que tu as mise dans le flux, en fait, c'est sur la Magic Mouse. Et ça, c'est un produit qui évolue pas beaucoup depuis des années. Ça me semble que ça a toujours été la même.
Ouais, je crois que depuis qu'elle a son design actuel, je pense que ça fait au moins 10 ans qu'elle a pas changé. Alors il y a en effet Mac Génération a titré un peu a indiqué la Magic Mouse peut passer au Force Touch. Donc le Force Touch pour vous rappeler ce que c'est ce que vous pouvez faire sur un trackpad par exemple. Vous pouvez juste activer des fonctions juste en caressant, on va dire, la surface de du trackpad. Là, la Magic Mouse, faut quand même cliquer pour sélectionner. On peut pas juste tapoter dessus. Elle reconnaît les gestes multi-touch, donc quand on passe deux doigts, etc. Mais pas force touch. Donc Apple a déposé un brevet pour que la Je pense que la prochaine version de la Magic Mouse permettra en fait de juste tapoter sa surface pour faire un clic principal et puis un clic secondaire. Donc j'espère qu'elle va évoluer dans ce sens-là et puis on espère qu'elle va passer à l'USB-C un jour. Puisque l'iMac n'a pas profité de l'USB-C pour le clavier et la souris.
Non, effectivement. On souhaite. Il y a beaucoup. J'ai vu sur certaines boutiques. Moi, j'utilise pas la Magic Mouse parce que au quotidien, je trouve que l'ergonomie est pas assez bonne pour moi. Toi, tu utilises la Magic Mouse tous les jours au quotidien,
Audrey? Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Ça fait vraiment débat. Je sais qu'il y a les pour et les contre. Moi, je l'aime bien. Je me sens pas forcément crispée dessus, même si ma main est un peu en. Enfin, il y a un vide, en fait, entre la souris et la main. Donc, les gens trouvent que c'est pas très ergonomique. Moi, je l'aime bien. Notamment pour ces gestes multi-touch, je trouve ça vraiment bien de revenir sur la page précédente dans Safari, juste en faisant glisser deux doigts. Enfin, je trouve ça super bien. Et puis, c'est vrai que je suis tellement habituée aux souris que, tu vois, le trackpad, c'est pas trop mon ami. Je suis pas trop à l'aise.
J'ai vu sur des boutiques en ligne, je ne me rappelle plus exactement, qu'il y a moyen d'ajouter un espèce de socle en silicone sur ta Magic Mouse pour que, d'abord, tu puisses la recharger en même temps que tu l'utilises et aussi qu'elle soit surélevée puis avec qu'elle ait une petite pente vers la droite. Alors, surveillez si vous voulez absolument un Magic Mouse puis que vous avez des problèmes au niveau ergonomie, peut-être que ça pourrait être la solution.
Je viens de vérifier, la Magic Mouse 2015, elle n'a pas changé depuis 2015. Donc, ça fait 8 ans.
C'est fou. Ouais, c'est fou, puis en même temps, quand un produit fonctionne. Évidemment, le débat, c'est la recharge en dessous. Hein, ça, on n'y passera pas à côté. Tu voulais nous parler de clé de passe et sa démocratisation. Qu'est-ce que c'est une clé de passe? On avait des mots de passe. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé de phrases de passe. Maintenant, on a des clés de passe. Il y a beaucoup de passes là-dedans.
Oui, ben écoute, les clés de passe, donc Apple a nommé ça passkeys, c'est l'avenir des mots de passe. En fait, c'est ce qui va remplacer les mots de passe bientôt. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Alors actuellement, quand vous créez un compte sur un site en ligne, vous devez mettre un identifiant, donc en général votre adresse mail, et vous choisissez un mot de passe. Vous pouvez vous connecter une fois que vous avez mis votre identifiant et votre mot de passe. Alors même si le trousseau d'Apple nous simplifie vraiment la vie, puisque avec juste notre empreinte digitale sur le Mac, on arrive à s'identifier, ou avec Face ID sur l'iPhone et l'iPad, ça pose un problème dans le sens où n'importe qui pourrait s'identifier à votre place s'il avait votre identifiant et votre mot de passe. Il y a l'identification à deux facteurs. Parfois, il faut recevoir un code de vérification pour que le site s'assure que c'est bien vous, donc vous recevez un SMS avec un code unique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'identification à deux facteurs. Mais les clés de passe vont plus loin parce qu'en fait, le mot de passe, ça va être vous. Ça va être soit votre empreinte digitale ou soit votre visage. En réalité, au lieu d'avoir un identifiant et un mot de passe, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler de clés. C'est-à-dire qu'il y aura une clé, quand vous allez créer un compte, il y aura une clé publique qui sera stockée sur le serveur du site web. Donc cette clé, elle est publique parce qu'elle n'a pas besoin d'être, même si elle est piratée, c'est pas grave parce qu'elle n'a aucune valeur, on va dire. Et par contre, votre iPhone, votre iPad ou votre Mac va créer une clé privée qui sera stockée sur votre appareil. Quand vous allez vouloir vous connecter, il faut que ces deux clés soient présentes. C'est comme une combinaison, quoi. Il faut que ces deux clés-là s'emboîtent pour que l'authentification puisse avoir lieu. Et l'authentification se fera non pas à l'aide d'un mot de passe, mais à l'aide de Face ID ou de Touch ID. Donc, c'est génial parce que déjà, la clé publique qui est stockée sur le serveur de l'application ou du site web, ben, même s'ils sont piratés, on s'en fiche, ça ne représente rien. Et le fait qu'il faille que ces deux clés se réunissent pour pouvoir se connecter, c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de mots de passe et donc de retenir des mots de passe ou de stocker des mots de passe dans votre trousseau. Seules les clés seront sauvegardés dans votre trousseau. Et ça fait un niveau de sécurité beaucoup plus élevé puisqu'il faudra l'un de vos appareils pour se connecter. Si jamais vous voulez vous connecter depuis un autre ordinateur, vous pourrez générer un QR code avec votre iPhone pour pouvoir vous connecter. Donc, tout a été pensé. Je pense qu'Apple... en plus, c'est pas Apple qui a créé ça. Ils ont adopté un standard, non. En fait, ouais, que, ça, ouais. Voilà, que beaucoup de sociétés de technologie ont adopté. Donc, ça marchera partout. Donc, c'est trop bien. En fait, moi, j'ai hâte qu'on passe tous à ça et que les gens puissent se connecter juste avec leur visage ou leur empreinte et puis qu'on arrête ces problèmes de mots de passe.
Ouais, ben, en fait, il est plus que temps parce que ben, je lisais encore des derniers rapports. Ça n'a pas bien évolué, les mots de passe. Hein. Les gens utilisent encore des choses trop simples. Même si on les force à avoir des choses un peu compliquées. Puis une fois qu'on les force à avoir quelque chose de compliqué, ils font quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ils réutilisent le mot de passe partout. Et moi, je suis surpris de voir des gens qui ont des iPhones. Combien de fois, et je vais te le dire, là, je travaille avec des gens en technologie, OK? Au moins une fois par semaine, je dis, regarde, il y a Passkey. Dans Passkey, tu gardes tes mots de passe. Ouais, mais ça ne marche pas sur Windows. Oui, ça marche sur Windows. Tu peux avoir ton gestionnaire de mots de passe sur Windows. Et puis, une fois que tu as installé iCloud pour Windows, ben tu as un plugin dans ton Chrome, tu as un plugin dans ton Edge et tu vas pouvoir avoir tes mots de passe que tu as sur ton iPhone. Alors, si vous nous écoutez, qu'à la maison, vous êtes sur des produits Apple et qu'au bureau, vous marquez tous vos mots de passe sur un post-it, vous récupérez les mots de passe du bureau et ainsi de suite, ben sachez que vous pouvez maintenant avoir au bureau un gestionnaire de mots de passe. Et si vous avez une DSI qui s'occupe de ça pour vous, ben, relevez ça parce que c'est un problème de sécurité pour vos DSI que vous mettiez n'importe quel mot de passe alors qu'il vous aide en ayant une bonne hygiène numérique. Et puis, si en plus, maintenant, vous allez pouvoir avoir utilisé Passkey sur tous les sites, c'est intéressant. Par contre, bon, Passkey, il y a des petits enjeux. Bon, les clés d'accès sont liées à un appareil. Audrey vous a dit qu'il y aura des moyens que des QR codes de générer ça, mais si vous ne l'avez pas fait, dans la rapidité des choses, ben ça risque d'être un enjeu pour pouvoir réaccéder à votre site web si vous perdez votre téléphone ou qu'il est bloqué. Il y a aussi la non-adoption de ça sur tous les sites web. Malheureusement, tout le monde n'a pas encore accès à ça. Alors, évidemment, les mots de passe sont encore bons pour un bon moment avant que Passkey soit démocratisé partout sur tous les sites web et applications. Et puis, ben, la transition d'un iPhone, parce que, on vous l'a dit, c'est un consortium là, qui s'est regroupé. Il y a Microsoft, il y a Android, il y a tout ça. Alors, la transition d'un Passkey vers un autre appareil, ça va être aussi compliqué. Pour le moment, c'est des enjeux qu'on a. C'est-à-dire que si vous décidez, vous êtes chez Android, vous avez fait vos Passkey, vous décidez de venir chez Apple, ben, il n'y a pas de moyen simple parce que la deuxième clé privée, c'est votre téléphone. Il n'y a pas de moyen simple de prendre vos clés privées d'un téléphone puis l'envoyer sur un autre. Alors, pour Apple, ça va bien parce que vos appareils, quand vous faites la sauvegarde iCloud, tout ça va se sauvegarder. Ce qui va être plus compliqué, c'est quand vous changez d'écosystème. Alors, il y a des défis, mais au moins, moi, ce que j'aime, c'est qu'on va dans une bonne direction pour la sécurité. Puis, dans le fond, là, il n'y a aucune nouveauté par rapport à ça. La nouveauté, c'est la technologie en arrière de ça. Mais c'est exactement la même affaire qu'une clé multifacteur ou double facteur comme vous avez. Vous partagez avec le site web un mot de passe, c'est la clé publique. Et puis, vous avez un MFA, un numéro SMS qui vous envoie un code. Ça, c'est votre clé privée. Bon, ben, c'est à peu près le même principe, mais chiffré. Et puis, ben, là, maintenant, au niveau de la sécurité, c'est beaucoup mieux. Je vous ai mis dans les notes de l'émission les sites web qui participent à ce regroupement-là et qui commencent à l'utiliser. Il y en a beaucoup, mais dites-vous que le Passkey est très tributaire du nom de domaine. Je m'explique. Si vous êtes sur Amazon.fr, ben peut-être que ça ne marche pas. Mais si vous êtes sur Amazon.com, ça fonctionne. Et peut-être que la clé d'Amazon.fr ne sera pas la même que la clé d'Amazon.com. Alors, c'est encore très tributaire des noms de domaine. C'est nouveau. Il va y avoir des améliorations par rapport à tous ces principes-là. Mais ça commence à se démocratiser beaucoup, 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 cette façon de faire. Et c'est vraiment chouette. Et petit rappel, si vous êtes sur un site web et que ça vous offre la possibilité de faire un Apple Connect, ben c'est pas mal mieux que de sauvegarder le mot de passe sur le site web en tant que tel.
Oui.
Bon, mais très bien. C'est une bonne évolution pour les mots de passe. J'ai encore.
Oui, je voulais en parler. Pardon.
J'ai encore eu la question Face ID puis Touch ID. Par des gens dans une rencontre qui me disaient « Ouais, mais là, je veux pas que le site web, il ait mon visage. » C'est pas encore bien compris, ça, Face ID puis Touch ID. Hein. Il faut que Apple démocratise encore plus, en tout cas communique plus, parce que il y a beaucoup de gens qui ont peur de montrer leur visage quand ils vont sur un site web, alors que c'est le Face ID pour le passkey, là, tu sais.
Oui, et puis je me souviens quand Apple a présenté Touch ID, donc ça remonte hein, maintenant.
Ouais.
Le premier système qu'ils ont proposé d'identification, on va dire, avec notre empreinte, ils ont bien précisé que l'iPhone avait une enclave sécurisée, c'était le terme qu'ils ont utilisé, une puce dont le seul but est de mémoriser l'empreinte digitale et que même Apple n'a pas nos empreintes digitales. C'est pareil pour notre visage, c'est qu'en gros, il y a vraiment une première étape d'identification qui est propre à l'iPhone et après, le site vous reconnaît grâce à votre identifiant et votre mot de passe, pas grâce à votre visage ni à votre empreinte. Donc, c'est vrai que c'est... En plus, ça va tellement vite maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Que si nous, on a décortiqué toutes ces étapes parce qu'on les a vues venir et on suit les conférences et on a compris le système dès le départ, mais c'est vrai que pour les gens, ça peut être un peu flippant, je le comprends. Là, en fait, j'ai parlé de ça parce que c'est Google qui m'a, pour ma chaîne YouTube, qui m'a proposé de créer une clé. Donc,
ouais,
Ouais, je l'ai faite hier et je me suis dit, ah, c'est bien, ça commence à se démocratiser. Et donc, dans le trousseau iCloud, je suis allée voir, il y a bien quand même l'identifiant et le mot de passe habituel, plus une clé. Donc c'est vraiment bien, bien fait, bien intégré dans le trousseau iCloud.
On se réjouit que ça s'améliore sur tous les aspects de sécurité parce que ben, c'est pas prêt de se terminer, hein, le numérique, les tablettes, les iPhones, dans tous les cas, Internet et les accès, là, c'est pas prêt de se terminer, je vous le dis. Là, on en a encore pour beaucoup de temps dans l'histoire de l'humanité. On va passer à ton dossier, Audrey. On parle d'emojis, de harcèlement, d'Apple, de lunettes, de dents. C'est quoi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
En fait, j'avais envie de faire un dossier suite à un article que j'ai vu sur plusieurs sites liés à Apple. Il y a un Anglais, un petit garçon de 10 ans en Angleterre, qui a lancé une pétition en ligne parce qu'il trouve l'emoji, alors vous le connaissez certainement, c'est l'emoji un peu geek avec des lunettes et puis deux petites dents en avant. Moi, on me l'envoie souvent parce que j'ai deux dents, des dents qui ressortent, enfin des dents, voilà, comme des petites dents de lapin, comme on appelle ça, et puis des lunettes. J'ai exactement les mêmes lunettes que l'emoji, donc on me l'envoie souvent. Donc ça m'a assez interpellée. Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans, donc je vais pas me vexer, et je le trouve plutôt mignon, cet emoji. Mais pour un enfant de 10 ans, je me suis dit que c'était intéressant qu'il milite, en fait, pour qu'Apple change cet emoji, parce que lui subit du harcèlement scolaire à cause de ça. Scolaire et puis dans sa famille aussi parce qu'il parlait de son cousin qui lui a envoyé cet emoji et donc Mac Génération a fait un article là-dessus, il y a plein de sites qui ont fait un article là-dessus, mais ce qui m'a frappé ce sont les commentaires. Il y a eu plus de 300 commentaires sur cet article, c'est énorme hein, la moyenne des commentaires c'est 50-60 et en fait on s'est retrouvé j'ai été effarée de lire les réactions des gens qui sont adultes, attention. Hein. Parce que c'est ça qui me choque le plus, c'est que, de toute façon, on sait très bien que les enfants, les ados sont cruels, on est tous passés par là. On sait très bien que si t'as pas la bonne marque de vêtements, si t'as une tête qui revient, je pense qu'on a tous subi des brimades, voire du harcèlement scolaire quand on était gamin. Moi, la première, hein, j'étais la seule dans ma classe à avoir des parents divorcés, donc dès le primaire... j'étais la fille des parents qui s'aiment pas. Enfin, je me souviens c'est très fou, bien ouais. De tout ce que tout ce ouais. C'était pas très fréquent à l'époque. Et puis voilà, pour d'autres raisons, l'année d'après, c'était la marque de mes chaussures. Enfin, il y a toujours une raison pour que les vilains nous embêtent. Hein. Mais là, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que les gens qui ont commenté cet article sont adultes. Et je me suis dit, il n'y a pas un seul moment où ils se disent que ce gamin de 10 ans, forcément, vu l'ampleur que son histoire prend, il n'y a pas un moment où les gens qui ont commenté ça, qui l'ont insulté, parce qu'il y a eu des insultes, il n'y a pas un moment où les gens se sont dit, bah, le gamin de 10 ans, il va lire tous les articles où on parle de son affaire. Et avec les outils de traduction aujourd'hui, bah, forcément qu'il va lire les commentaires. Enfin, moi, c'est ce qui m'est venu en premier, tu vois, je me suis dit... Quand on parle de toi, bah, tu vas voir ce qu'on dit sur toi. Et puis là, il va voir sur 300 commentaires, je pense qu'il y en a bien 250 qui sont affreux, quoi. C'est... Ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, mais on vit dans un monde où les gens vont insulter un enfant de 10 ans. C'est pour un émoji. Enfin, tu vois, je me dis, c'est
ça en est drôle, folie. Mais tristement drôle.
Ouais, c'est de la folie pure, quoi. Par exemple, alors je vous ai relevé quelques commentaires. Ses parents n'ont qu'à pas lui donner un iPhone ou un iPad à 10 ans, mais plutôt un livre. Sa vie n'en sera que plus intéressante, intelligente.
Voilà, je te dis comment faire. Et puis en plus, je te dis comment élever tes enfants. C'est bien.
Et en plus, personnellement, depuis qu'Internet existe, je n'ai jamais appris autant de choses. Ouais. Je veux dire, enfin, tu connais pas un mot, t'appuies dessus, t'as la définition. Je veux dire, c'est incroyable tout ce que ça mène à te porter. Donc, l'argument de on met pas un iPhone, on donne pas un iPhone aux enfants, on a qu'à leur mettre un livre entre les mains, c'est vraiment d'un autre âge, quoi. Je veux dire, ça peut apporter tellement de choses aujourd'hui. Après, contrôle parental, évidemment. Voilà, j'ai lu aussi à 10 ans, tu ne te bats pas pour des idioties pareilles. Donc là, on nie complètement le ressenti du gamin. Je trouve ça limite.
Ou le fait que commence, c'est bien que quelqu'un ait des convictions. Tu sais, on peut se plaindre aussi que de la mollesse des gens, de la mollesse de la société, du fait que les gens soient moutons. Moi, je trouve ça bien. Puis en plus, quand tu lis l'article, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a des dents. Puis en plus, il a été. Tu sais, il a fait une critique, mais il a fait une critique constructive, c'est-à-dire qu'il a proposé un nouvel emoji. Il l'a dessiné. c'est fou.
C'est ça. Ouais, en plus, je veux dire, il a dessiné sur une feuille l'emoji qui, pour remplacer cet emoji qui, lui semble offensant, puisqu'on l'utilise contre lui, hein, donc forcément que lui ressent une attaque. Il a dessiné l'emoji avec des lunettes et puis un petit sourire intelligent, un petit sourire en coin plutôt intelligent. Mm-hmm. Donc, on passe du geek un peu niais au geek malin et intelligent. Enfin, c'était très bien, comme tu dis, son approche. Et puis, ce qui m'a... Alors après, je vais vous passer les insultes gratuites parce que franchement... Mais je trouve ça vraiment lamentable, quoi. Je me suis dit, à un moment, va falloir modérer ses commentaires parce qu'on peut pas laisser ça en ligne, quoi. On peut pas laisser le gamin tomber là-dessus. Ça me semble pas concevable. Et puis, je crois que le pire dans tous ces commentaires, c'est les gens qui disent « Moi aussi, on m'a brimé quand j'étais petit, on m'a tapé dessus, mais j'en suis pas mort. »
Ouais, c'est ça.
Écoute, Mathieu et moi, on n'a jamais parlé de ce genre de sujet, mais je pense qu'on va être d'accord sur le fait que si la personne qui commente ce genre de choses en parle 30 ans après, c'est qu'à un moment, ça l'a marqué. Il s'en souvient encore. C'est pas un truc anodin qu'il a oublié. Donc, il n'en est pas mort, mais ça a joué sur plein de choses, et notamment sur le fait qu'aujourd'hui, il a même pas de compassion pour un gamin de 10 ans, quoi. Au lieu de se dire, moi, j'ai vécu ça, donc je veux pas du tout que la nouvelle génération vive la même chose. Bah c'est ouais, j'en suis pas mort, donc c'est bon, en fait, pas de pitié, quoi. Et ce genre de comportement, je trouve ça triste, en fait. Je sais pas si ces gens-là ont des enfants, mais je trouve ça triste.
Ben, à tout le moins, ça manque de sensibilité, et c'est ce qu'on a de besoin, je pense, de plus en plus, de la sensibilité et de la bienveillance. Alors ouais, je suis d'accord pour toi. Moi, je m'attarde pas aux commentaires. C'est on a de la chance dans notre podcast d'avoir beaucoup de bienveillance, et puis on le voit dans le commentaire puis les retours que vous nous faites. On a la chance, mais à un moment donné, ça va être inévitable, comme sur ta chaîne. Des fois, moi, je commence aussi à en avoir des rigolos sur ma chaîne. J'essaye de, et ça m'est arrivé, hein, dans les derniers mois, je les retire complètement. Je les retire, puis je veux pas me voiler le visage, mais ça m'atteint, puis je trouve que c'est pas intéressant. Et puis, comme tu dis, lui, l'enfant, il va aller fouiller là-dedans, puis il va voir. Maintenant, côté positif, j'ai hâte de voir la réaction. C'est sûr qu'Apple va réagir, c'est sûr qu'Apple va faire quelque chose. Moi, je veux voir si Tim Cook donne un ordre en interne de changer l'emoji. C'est sûr qu'ils vont... Ils ont cette sensibilité-là, la compagnie. C'est sûr qu'ils vont faire quelque chose.
Évidemment, ouais. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, si vous... Je précise, si vous ne le savez pas, en gros, il y a un standard emoji. Donc, en gros, il y a un colloque, enfin, je ne sais pas, une société qui gère, qui propose des nouveaux emojis, et chaque société va proposer sa propre déclinaison. Et je crois que chez Apple, c'est la seule société qui n'a pas modifié cet emoji, qui l'a laissé encore un peu genre geek, un peu niais. La représentation, c'est un peu ça qu'on lit, hein, avec les dents de lapin, etc. Et je crois que c'est chez Android notamment où ils l'ont rendu un peu plus sympathique. Donc c'est évident qu'Apple va réagir. Voilà. Moi, ce qui me choque juste, tu vois, c'est comme quand les gamins, comme tu disais sur YouTube, il y a plein d'enfants qui font des vidéos sur YouTube sous la bienveillance de leurs parents, évidemment. Mais quelle mentalité d'adulte il faut avoir pour insulter des enfants? C'est ça qui me choque, en fait. Je pensais pas qu'on en était encore là, de prendre le temps d'écrire un commentaire, d'écrire noir sur blanc une insulte, parce qu'il s'est fait traiter de con, enfin, il s'est fait traiter de plein de choses qui sont inacceptables, quoi. Il s'est fait traiter de fragile.
C'est un enfant.
Et puis après, il y a tout aussi un peu les complotistes, tous ceux qui disent oui, c'est pas lui qui voulait ça, il y a ses parents derrière, ni gna gna.
C'est le deep state.
Voilà. Ouais, manipulé. C'est un enfant manipulé. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Et surtout qu'il faut arrêter de nier les complications psychologiques engendrées par les réseaux sociaux. On sait très bien les dégâts que ça fait chez les gamins. Faut vraiment surveiller ça de près, faut mettre le contrôle parental. Je pense pas qu'il faut interdire à son enfant d'avoir un iPhone ou un iPod Touch ou un iPad, parce que faut vivre avec son temps aussi. Et puis il y a plein de choses.
Il y a plein de bonnes choses dont ils n'ont pas accès, tu vois, s'ils n'ont pas ça.
Et je trouve que ça va les exclure d'un autre côté, quoi.
C'est ça, tu vois. Moi, je me rends compte que typiquement mes enfants en ont besoin pour l'école. Typiquement, mes enfants en ont besoin pour faire des recherches. Typiquement, mes enfants en ont besoin pour leur cercle social. Quand ils jouent, ils ont besoin de ça. Je vois mon fils souvent, ça ne me fait pas plaisir qu'il soit sur les médias sociaux, mais au moins, je mets les éléments en place pour pouvoir, pas surveiller, mais modérer, être informé de ce qu'il fait, de l'usage, et ainsi de suite. Après ça, ça y appartient. Je vous ai mis dans les notes de l'émission, vous irez voir, il y a Google qui a changé l'emoji, mais l'emoji du côté de chez Google n'était pas répréhensible comme ce que, je pense que c'est Toby, je ne me rappelle plus son nom exactement,
Teddy. Garçon.
Teddy. Vous verrez, toutes les marques ont adopté l'emoji nerd, là, hein, l'emoji, comment il l'appelle cet emoji-là? Ça s'appelle Nerd Face. Ils ont adopté ça. Google, il y a Google qui est bien, il y a WhatsApp qui est bien, il y a Facebook qui est bien. Il y a plusieurs moyens de bien faire les choses sans que ça ostracise certaines faciès d'enfants qui, que vous le sachiez ou pas, c'est pas votre affaire, je vous dirais. Si ça fait quelque chose pour lui et sa sensibilité, je suis sûr qu'Apple va réagir, c'est clair.
Et puis, comme il l'a dit très sagement, si moi, je ressens quelque chose à propos de cet émoji, je ne dois pas être le seul dans le monde. Voilà. Et donc, il pense à tous ses camarades comme lui qui reçoivent cet émoji comme une insulte. Et je trouve ça vraiment grand, en fait, pour un gamin de 10 ans, de penser ça, de penser à ses copains.
On va rester dans les conneries d'Internet. Et savais-tu que ça allait pas si bien que ça chez Twitter? X, maintenant.
Est-ce que tu crois qu'on va nommer l'épisode « Les conneries d'Internet
» Oui, sûrement. Je vous fais la petite histoire rapidement. Il y a Elon Musk qui dit à peu près n'importe quoi dans les médias sociaux et qui a fait des commentaires ou approuvé des commentaires ou tous les moins commenté des commentaires antisémites.
Ouais.
Ça va pas bien pour la marque parce qu'Apple a décidé de retirer ses publicités. On se rappelle qu'Apple, moi, je soupçonne que Tim Cook craignait un peu Elon Musk. Rappelez-vous, quand ils ont changé le nom de Twitter à X, il y a eu des tractations, il y a eu des échanges de pubs, ils se sont serrés la main, Tim Cook puis lui, mais au début, c'était pas gagné d'avance que l'application n'ait qu'une lettre. Parce que chez Apple, les applications à une lettre, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Mm-hmm. Et puis, on sentait bien que les décisions marketing, les décisions du grand patron de Twitter X, ça c'est pas du tout en phase avec Apple. Et que à la première minute où il pourrait foutre le camp de la publicité de chez X, il le ferait. Et ils l'ont fait, et puis il n'y a pas qu'eux. Il y a eu Adobe, il y a eu plein de marques qui ont retiré leur placement publicitaire. On se souviendra que c'est la grosse majorité des revenus chez X pour survivre. Et puis, je me suis dit, on va parler de cet événement qui est triste, mais je me suis dit, il me semble qu'avant, sur iPad et sur iOS, sur mon iPhone, je pouvais créer des comptes Twitter directement à partir d'iOS. Et j'ai vérifié, puis oui, on pouvait avant, te rappelles-tu, créer directement dans iOS un compte Twitter. Alors, tu pouvais partager par mail, tu pouvais partager tu étais dans Safari typiquement, là, puis tu pouvais partager de certaines manières, puis c'était implicite, intégré dans le système d'exploitation, Twitter était dedans. Alors, je t'ai mis une note. Il y a Mac Stories qui avait fait un épisode sur iOS 5 où on voit des captures d'écran. Et puis, il y a eu 9to5Mac qui ont ressorti un iPad de première génération. Vous savez que j'aime les vieilles affaires des fois en technologie. Et puis, c'est là où on voit encore que Twitter était très, très intégré à iOS et à iPadOS. À un moment donné, c'est parti. Mais il était très intégré. Comme, rappelle-toi, Google était très intégré avant à iPad.
C'est ce que j'allais te dire. Il me semble qu'on pouvait aussi créer un compte Google ou un Gmail directement depuis iOS sans avoir installé une app. C'est vrai, j'avais complètement oublié ça.
Et YouTube, tu te rappelles, l'app YouTube était faite par Apple?
Ah non, je ne sais pas ça, je ne savais pas.
Oui. L'app, là où on pouvait voir des vidéos, on passait par une application qui était faite par Apple. Et c'est là que tu te dis, quand ils l'ont retiré, moi, il y a certaines intégrations qui étaient bien et qui ont retiré par rapport à Facebook, par rapport à Twitter. Et ça va faire un lien sur un épisode que je vais vous faire sur l'effet papillon, mais ça a été une bonne décision parce que t'imagines s'ils avaient gardé cette intégration très, très, très forte avec X et que d'un seul coup, maintenant, dans une application sur Apple, tu peux créer du contenu antisémite facilement puis aller en consommer. C'est fou, hein, l'évolution pareille des choses.
De toute façon, depuis que Twitter a été racheté par Musk, déjà on entend parler de lui tous les jours. C'est vraiment l'épuisement total. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Je sais pas jusqu'où il va aller pour détruire Twitter parce que moi j'y vais quasiment plus. En fait, je poste juste les trucs pour le boulot et j'échange avec uniquement les gens que je connais depuis longtemps. Mais je ne perds plus de temps en fait à parce qu'il y a de plus en plus de trolls, il y a de plus en plus de provocateurs, tu sais, les comptes qui ont zéro abonné et puis qui font que insulter les autres. Donc, je suis beaucoup plus sur Blue Sky maintenant. Mais c'est vrai qu'en fait, là, j'ai vu ton article avec capture d'écran et c'est vrai que ça me rappelle quelque chose. Ouais, iOS 5. Ah ouais, c'est fou de se dire qu'on pouvait créer un compte, Twitter, Google, etc. Et d'ailleurs, tu te souviens quand on parlait la dernière fois que Google payait Apple pour qu'il reste le moteur de recherche numéro 1 dans Safari?
Oui.
J'ai eu le chiffre. Bizarrement, le chiffre est sorti quelques jours après notre enregistrement.
C'est quelques dollars, quelques milliers de dollars seulement, sûrement.
C'est quelques 18 milliards de dollars.
Wow.
Ouais, que Google paye à Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Safari. 18 milliards de dollars.
J'ai DuckDuckGo quand je suis en mode privé sur mon Safari par défaut, sur mon iPhone. J'ai essayé pendant plusieurs mois, je vous l'assure, Ecosia, parce que j'aimais les valeurs, parce qu'on peut planter des arbres en fonction des publicités, et ainsi de suite. Mais ça reste quand même un foutu bon moteur de recherche quand même, Google. Hein.
Ouais, moi aussi, j'avais essayé Ecosia pour les mêmes raisons. Ils génèrent de l'argent grâce à la publicité et cet argent sert à planter des arbres. Donc, c'est vraiment génial. Ils ont planté des milliers d'arbres. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, je ne suis pas allé vérifier. Mais c'est sûr que Google reste le meilleur moteur de recherche. Enfin, dites-nous en réaction à cet épisode si vous avez trouvé aussi bien, ça nous plairait bien. Après, bon, toi comme moi, on a une chaîne YouTube, on gagne un peu d'argent avec ça, donc c'est aussi la main qui nous nourrit, hein, Google, donc bon.
Effectivement.
Mais 18 milliards de dollars, c'est quand même énorme.
C'est fou. Concernant les choses qu'auraient pu changer, l'effet papillon, J'écris à Audrey hier parce que j'écoute le podcast et je suis abonné premium tout plus des créateurs de Mac Story. Et dans leur dernier épisode, ils parlaient de l'effet papillon. Ils sont passés sur... Federico Fedici, qui est le cœur de tout ça, passe sa discussion, puis je l'ai trouvé intéressante, à partir d'un épisode, en fait, d'une série sur Apple TV+. Est-ce que tu as écouté Pour toute l'humanité sur Apple TV+?
Non, pas encore.
Bon, c'est... est-ce que c'est une dystopie? Une utopie? Je sais pas le bon terme, mais en fait, ça part du principe que les Russes... on a changé un événement dans l'histoire et les Russes sont sur la Lune avant les Américains et qui ont établi des campements. Et puis là, toute l'histoire part. Et puis c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Il y a aussi, à travers l'histoire de l'espace, il y a aussi l'histoire des femmes. On voit l'émancipation, le fait que la première femme capitaine, les réactions des gens et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment une télésérie que je vous recommande. Des fois, elle est variable, c'est-à-dire que For All Mankind, le titre en anglais, Pour toute l'humanité, c'est très contemplatif et des fois, ça va très vite. Alors, faut aimer ces changements de rythme-là, mais au niveau graphique, elle est vraiment juste incroyable, cette télésérie-là. Et dans le podcast, il raconte cette histoire d'un événement historique qui aurait pu changer et faire tout basculer. Alors, j'ai dit à Audrey, veux-tu jouer au jeu, te prêter au jeu de... ça, pour Apple. Et puis moi, je voulais savoir, et puis je vous ai écrit sur le compte Apple Diff, selon vous, quel est le produit-service qui a marqué l'histoire d'Apple et pourquoi? Et puis toi, ta réponse, c'est s'il n'y avait pas eu ça, d'après toi, il n'y aurait pas eu la suite des choses, puis je vais te laisser expliquer ton point.
Est-ce que c'était pas ton sujet du prochain épisode? On parle là-dessus.
Non, c'est pas mon sujet du prochain épisode, c'est le sujet
d'accord.
De là.
Ok. Alors moi, je suis partie de l'iPod parce que pour moi, je t'ai écrit l'iPod parce que c'est le pionnier de la dématérialisation. Mm-hmm. Parce que c'est grâce à l'iPod qu'on a pu acheter une piste audio, un morceau d'un album. Et avant, c'était inconcevable parce que si on remonte en arrière, on achetait un vinyle.
C'est vrai.
Il y avait quelques pistes dessus. Après, on a acheté des CD. T'as acheté le CD entier avec les 10, 12, 15 morceaux. Et parfois, t'as acheté des CD juste pour un morceau, parce que c'était le morceau que t'aimais. Après, il y a eu quand même les CD de titres. Je sais pas si tu te souviens. C'était dans une petite pochette en carton où t'avais vraiment que deux morceaux. Donc, c'était déjà mieux. C'était plus accessible financièrement. Ouais. Mais là, 99 centimes la piste audio. Mais je crois que j'ai claqué un fric monstre chez Apple. Je veux même pas savoir combien à cette époque-là pour acheter un morceau de là et puis ah oui mais bon je l'ai sur CD mais l'iPod il a vraiment été précurseur pour ça déjà pour la dématérialisation et puis l'iPhone est quand même un tiers de l'iPhone tu te souviens hein l'iPhone c'était un iPod un navigateur web et un téléphone. Il y avait quand même, l'iPod avait une place très importante dans la conception de l'iPhone. Donc pour moi, l'iPod, ça a été vraiment l'objet nomade qui a tout changé, quoi.
Et en plus de l'arrivée de l'iPod, c'est tout l'écosystème qui est arrivé ensuite avec ça, qui a effectivement été juste hallucinant. Et je me demande si t'as écouté l'épisode de Mac Stories, parce que il y a eu deux choses qui ont parlé. Il y a eu effectivement, l'iPod, puis t'arrives avec exactement les mêmes arguments. Et puis, l'autre élément, c'était dans les années 95, Apple avait créé une console de jeu. Et si elle avait fonctionné, est-ce que ça aurait changé complètement la face d'Apple? Parce qu'il l'avait créé quelques années avant que Steve Jobs revienne. Alors, est-ce qu'il serait revenu? Est-ce qu'on aurait tous les produits en tant que tel? Alors, moi, c'est vraiment super intéressant. Je vous ai posé la question. Et dans les notes, il y a l'iPod qui revient souvent. Il y a l'iMac, le retour de Jobs, effectivement. Il y a l'iPhone. Ça, c'est clair qu'il a changé beaucoup la phase de la téléphonie. Même si les téléphones existaient, l'iPhone a été les ventes d'applications, 99 cents aussi, l'écosystème qu'il a créé autour. Il y a Val qui nous dit le Macintosh en premier, l'iPod, iPhone. Alors, ça revient beaucoup. Ben moi, je me suis questionné sur l'iPad. Est-ce que l'iPad a vraiment changé l'histoire de la marque? Est-ce qu'il a changé l'histoire de... Ben, en fait, l'histoire de l'informatique.
Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'ai pas écouté l'épisode de Mac Stories parce que mon anglais n'est pas du tout assez bon pour comprendre ce qu'ils disent. J'ai essayé de faire une retranscription écrite, de traduction et tout, j'ai pas réussi, donc j'ai laissé tomber. Donc ça me fait plaisir si des gens de Mac Stories ont eu la même réflexion que moi. L'iPad, en fait, quand il a été présenté, on s'est dit, c'est le remplaçant du Mac, tu vois. Ça y est, on a un Mac tactile, enfin, tu vois, et puis il a évolué, il s'est équipé d'un clavier, d'un trackpad, d'un Apple Pencil et tout, mais le Mac est encore là, en fait. Donc, je pense qu'il a amené l'informatique dans pas mal de foyers.
Voilà, je pense que c'est ça le secret. J'arrive à la même conclusion que toi. Il y a beaucoup de gens qui ont un iPad, mais qui n'ont pas du tout d'ordinateur. Puis je pense qu'il a changé, pas forcément l'écosystème informatique complet comme iPhone a pu le faire ou l'iPod, mais il a quand même marqué beaucoup de foyers, de gens qui nous écoutent. Moi, je vois ma mère, elle est incapable sur un ordinateur, mais elle a un iPad. Il y a beaucoup de personnes que je vois que c'est comme ça, des créatifs même, qui travaillent juste sur iPad, qui sont complètement incompétents sur un Mac, mais quand ils arrivent sur un iPad, tu fais « Wow, ils font des choses incroyables que tu n'es pas capable de faire. »
Ouais. Ouais, ben ça, tu sais, on avait parlé des usages et de... Si nous, on nous avait mis un iPad entre les mains au lieu d'un Mac, on serait hyper à l'aise sur l'iPad, quoi, tu vois, parce qu'on on aurait développé toutes nos compétences, nos repères. Voilà, nous, on est plus la génération Mac, donc... Tu vois, vraiment, c'est vrai que là, je regarde les réponses que vous nous avez données sur Twitter. L'iPod, il revient quand même souvent. Il y en a un qui dit, Dominique, qui dit « Pour moi, c'est l'iPhone. Je me rappelle quand Steve Jobs l'a présenté sur scène, c'était dingue. » Mais c'est clair, c'était à l'époque des keynotes en direct et en public. Ouais. Et les gens ont hurlé, quoi. Je me souviens, c'était de la folie, quoi. Ouais. C'était un produit... C'est vrai que l'iPhone, c'était quand même... Je pense qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'un téléphone allait devenir ça. On avait tous nos gros Nokia là, qui avaient une super autonomie de 15 jours, mais on faisait rien avec. Et on s'est dit, attends, le mec, il vient du futur, quoi. Il nous présente un téléphone sans clavier, sans juste les claviers avec les numéros. Hein. Il nous présente un truc tactile. On va pouvoir aller sur Internet avec. On va pouvoir écouter de la musique. On va pouvoir installer des applis. Enfin.
De ouf.
C'était vraiment révolutionnaire. Pour moi, l'iPhone, c'est un des produits les plus marquants. Et l'iPod, c'était plus par rapport aux usages et à la dématérialisation.
Mais on n'a pas parlé d'Apple Watch. Il n'y a pas l'Apple Watch qui est ressorti beaucoup. Il n'y a pas l'Apple Télé qui est ressorti beaucoup. Vraiment dans les produits phares. Hein. Ouais. Ah ouais, peut-être aussi.
Je pense que l'Apple Watch, on va la... Si on repose la question dans 5 ans, peut-être que l'Apple Watch, comme elle va de plus en plus s'axer sur la santé et qu'elle va nous sauver la vie de plus en plus.
Juste, c'est vrai.
Ouais, je sais pas, après... Non, l'Apple Watch, c'est quand même récent comme produit. Hein.
Bref,
donc
moi,
pour toi, c'était l'iPad.
Ouais, pour moi, en fait, je me suis questionné sur l'iPad. Je me suis vraiment questionné. J'ai fait ça à l'envers. Je me suis dit, quel produit... Et puis, je me suis même posé la question sur le nouveau masque d'Apple. Est-ce que ça va être un de ces produits qui va dire, dans 30 ans, waouh, ils étaient absolument fous de sortir ça? Moi, je me suis questionné sur l'iPad parce que l'iPad, je le vois. Je me suis posé la question suivante. Parce qu'initialement, ça devait être l'iPad qui sorte en premier et l'iPhone en deuxième. Il y a eu un changement stratégique chez Apple. Ils ont décidé que c'était l'iPhone qui sortait en premier plutôt que l'iPad. Et je me suis demandé, est-ce que l'iPad, s'il était sorti en premier, aurait eu le même impact que l'iPhone? Et si maintenant, tout le monde aurait des iPads plutôt que des iPhones? Moi, je me suis posé cette question-là, tu vois? Et est-ce que maintenant, tout le monde n'appellerait pas avec son gros iPad au téléphone? Parce que de
ça
toute façon, il
n'y
a plus
personne.
Ouais, mais ouais, ça, t'as raison. Mais de toute façon, il n'y a plus personne qui met l'iPad, tu sais, qui met un téléphone à l'oreille. Tout le monde parle devant avec son écran. C'est à chaque fois que je vois quelqu'un dans un magasin, je pense à toi.
Alors. Chers auditeurs, vous ne voyez pas ce que je vois en direct, je suis choquée. Matt a mis son iPad contre son oreille comme un téléphone. C'est trop drôle. Non, mais c'est quand même gros pour mettre dans la poche l'iPad, t'es d'accord? Même l'iPad mini.
Ouais, effectivement. Fait que, bref, moi, je me suis posé la question et puis j'en suis venu au fait que si l'iPad a changé quelque chose dans l'histoire de l'informatique, mais pas de manière directe. Ça a été vraiment indirect, je trouve. Il y a des nouveaux usages. Tu vois, on voit beaucoup sur les marchés, dans les villes, il y a beaucoup de gens qui ont des iPads aussi comme caisse enregistreuse pour faire du commerce. Il y a beaucoup de créatifs qui l'utilisent. Alors, lui, il a changé quelque chose, mais pas aussi majeur. Et je pense que l'iPod, c'est lui, c'est la combinaison de deux trucs. Là. C'est arrivé au même moment où tu pouvais acheter des chansons à 99 cents. Au début, non, mais après ça, il y a eu ça qui fait que c'est excessivement fort. Puis en plus, c'est lui qui a amené Apple dans une autre dimension que juste créateur
vendre
de
du matériel.
Produits informatiques. Ouais, c'est ça.
C'est ça, ils ont commencé à vendre des produits dématérialisés et après les services et après... Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que avant d'avoir un iPod, j'ai eu plein de lecteurs MP3, mais alors je suis incapable de te dire leur nom, leur marque. J'ai rien gardé, j'ai rien oublié. L'iPod, j'en ai encore un très vieux. Et l'iPod, dans la tête de tout le monde, ça a été un produit qui a marqué son époque. En plus, avec les écouteurs blancs. Semblant de rien, alors que tous nos écouteurs étaient noirs, tu te souviens? Et Apple, non. Apple, ils font des écouteurs blancs, signe distinctif, marqueur social, enfin bref, ils avaient tout compris. Et pour revenir juste à l'iPad, en t'entendant parler, ça me faisait penser au fait que, tu sais, le Mac, ça a amené l'interface graphique et ça a permis, je pense, à des gens de se mettre à l'informatique sans avoir besoin de connaître du code. Et je pense que l'iPad est un peu dans la même optique de rendre l'informatique plus simple aux gens qui ne savent pas manipuler une souris, ils utilisent leurs doigts et voilà. Enfin, je pense que c'est le Mac et l'iPad, je pense qu'ils sont dans le même courant.
Ça n'a pas forcément été des succès de vente, le Mac et le Macintosh non plus, comme l'iPad, mais ça a été des facilitateurs pour peut-être d'autres produits ou d'autres écosystèmes. Moi, j'avais un RCA Lyra avant le iPod. Alors, c'était les gens, ils doivent le connaître, là. C'était une petite affaire bleue, tout en plastique, qui allait pas très, très bien. C'était compliqué à mettre de la musique là-dessus. C'était les premiers podcasts que j'écoutais grâce au RCA Lyra.
Ah ouais?
Ouais.
Attends, je regarde. Ah oui.
L-Y-R-A.
Ah ouais. Ah, il avait déjà une espèce de petite molette.
Ouais. Bon, ben, c'était un peu Oui, vas-y.
Excuse-moi, juste, je finis. Rien que de naviguer dans les menus avec la molette,
ouais.
Ça aussi, c'était incroyable. On n'avait plus un genre bouton pour descendre en bas. C'était vraiment... C'était limite même pas indispensable, mais c'était le petit truc qui faisait la différence, quoi.
Oh ouais. Au niveau de l'interface... Puis ça a été comme ça qu'ils l'ont vendu aussi au début. Il y avait le cercle que tu voyais souvent dans les publicités, là. C'était la molette. Et puis, les écouteurs blancs. On voyait peu ou rarement le produit. C'était vraiment ces deux trucs-là qu'on voyait le plus souvent dans les publicités, je trouve.
Ouais.
Bref, c'était l'idée de cet épisode, c'était de réfléchir à s'il y avait un produit qui avait marqué et puis s'il y avait des produits qui n'avaient pas marqué. Ça se peut aussi qu'il y ait des produits qui auraient pu marcher, qui auraient pu changer bien des choses. Comme je vous l'ai expliqué dans Mac Stories, ils expliquaient la console de jeu dans les années 95. Moi, j'ai pas produit que je pense qu'il aurait pu... À un moment donné, je me suis demandé si MobileMe avait pas existé ou avait mieux existé, si ça aurait changé les choses, mais c'était le précurseur d'iCloud. Alors oui, ça a changé les choses. Bref, dites-nous dans les notes, dites-nous sur les médias sociaux, quel est le produit, d'après vous, qui a vraiment changé la face de plusieurs aspects de l'informatique, mais surtout d'Apple. On est à la partie pensée et réflexion du mois. De quoi veux-tu nous partager? Pour cet épisode.
Eh bien, je viens de finir la saison 3 du Morning Show. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime, cette série.
Ouais.
Oh là là. Écoute, elle a commencé en 2019, saison 1. Saison 2, 2020, juste après. Et après, il y a eu le Covid.
Ouais.
Et en gros, là, quand j'ai commencé, j'avais regardé la saison 1 et la saison 2. Quand j'ai repris à la saison 3, je me suis dit, oula, ça fait longtemps, il y a eu un Covid entre temps, des confinements. Et du coup, j'ai tout repris au départ. Je suis repartie à la saison 1. Donc là, j'ai fait 3 semaines de morning show. Mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette série. Elle est vraiment géniale. Et la saison 3 est vraiment dans l'air du temps, puisque c'est un géant de la tech qui veut racheter un média, média traditionnel. Donc, ouais. Tu l'as pas vu?
En fait, moi, j'ai fait comme toi. J'ai commencé la saison. Et à un moment donné, j'ai décroché parce que j'en ai vu d'autres. Et puis là, je veux raccrocher. Je pense que j'ai pas le choix de recommencer à zéro pour bien suivre la suite des choses. Moi, je me souviens, la saison 1, il y a des sujets gênants. Il y a des réflexions gênantes à avoir quand on écoute ça, qui font du bien au niveau de la société parce qu'on évolue. Mais je me rappelle la saison 1, notamment les harcèlements, ces choses-là qu'il pouvait avoir, qui sont... c'est compliqué, je veux dire, les sujets qui sont abordés, mais ils sont bien abordés.
C'est ça qui est hyper intelligent, c'est que la saison 1, c'est sur le harcèlement sexuel au travail, donc dans le journal, dans le morning show. Mais c'est pas genre l'agresseur qui va attaquer des femmes parce que
aussi
c'est
simple que ça, c'est ça.
C'est qu'en fait, c'est sa construction sociale, c'est la construction de son statut de présentateur vedette, c'est le pouvoir qu'ont les hommes, en fait, parce que la société est comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus profond que juste dire c'est un agresseur et il faut le condamner. En fait, ça va au-delà de ça, et la complicité féminine sans s'en rendre compte. Enfin, il y a tellement de choses qui sont abordées, qui sont hyper intéressantes. Dans la saison 2, ils sont plus axés sur le racisme institutionnalisé, le racisme ordinaire. Et puis voilà, la saison 3, qu'est-ce qu'un média traditionnel quand il se fait racheter par... clairement, c'est un Elon Musk bis qu'ils nous ont fait là. Donc c'était vraiment excellent, la saison 3. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, regardez. Et puis moi, j'ai hâte que la saison 4 arrive.
Oui, il y a une saison que j'ai commencé sur Apple TV+, comme toi, c'est Monarch. Je voulais juste la relayer. Elle est très intéressante. Si vous avez aimé Lost, disparu en français, si vous avez aimé ce genre de série-là, un peu bizarre et un peu futuriste, qui revient dans le passé, qui revient dans le présent. C'est vraiment la série à écouter en ce moment. Au début, j'ai regardé la bande-annonce, je fais « Ouais, mais ça va nous parler juste de dinosaures. » Non, ça vous parle pas juste de dinosaures. Alors, je vous la conseille fortement. Elle a débuté, c'est un épisode. Ça c'est le truc qui m'agace un petit peu, mais en même temps, OK, je comprends, un épisode par semaine. Tu vois l'épisode sur Apple TV, puis il dit « Ça sera bientôt vendredi, tu vas pouvoir la voir. » Tu fais « Oh, il va falloir que je revienne. » Il crée une habitude.
Ah, moi, je peux pas faire ça, moi. Je suis une dévoreuse de séries. Quand je commence, il faut que tout soit dispo. Sinon, je peux pas attendre toutes les semaines. En fait, tu vois, quand j'ai repris le morning show à partir de la saison 1, j'ai regardé quasiment que ça pendant 15 jours, tu vois, un épisode le midi, un ou deux le soir. Et en fait, pour moi, c'est le seul moyen de vraiment tout comprendre, d'analyser vraiment. Parce que quand t'es parasité par d'autres séries, d'autres films... Ouais, c'est une moins bonne expérience. Donc là, ils ont fini fin novembre, hein, le morning show, donc début novembre.
C'est compliqué, c'est compliqué, effectivement. Alors, je suis un peu comme toi, mais bon, pour Monarch, je le regarde avec mon fils, et je me fais la réflexion, quand je regarde le catalogue, il commence à être bien garni, hein, de téléséries Apple TV.
Ma liste à suivre est trop longue. J'ai plein de retard.
moi aussi.
Bon, vu le prix des abonnements des autres plateformes, je pense que je vais en couper pas mal et me concentrer sur Apple TV+.
Et ça a été la même réflexion. J'ai Netflix qui a augmenté, j'en ai d'autres qui ont augmenté, mais je garde tous mes produits Apple quand même parce que je trouve qu'Apple TV+, pour vrai, la qualité là, des productions, des films, des séries, la diversité. Hey, écoute, j'ai écouté une télésérie de gens qui chantent tout le long des épisodes, alors que de comédie musicale. En temps normal, jamais j'aurais écouté ça, mais là, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça bon. Alors, écoute, je vous le conseille fortement, Monarch et The Morning Show à ajouter sur votre playlist, à écouter peut-être plus tard pour Monarch quand il sera tout arrivé, mais Morning Show, tout est là, alors vous pouvez aller l'écouter. Audrey, on va rappeler, c'est la fin de l'émission, de ne pas oublier le gros bouton jaune, de faire des dons, et que ça va continuer à nous aider effectivement. Mais après, il faut parler de là où on peut nous rejoindre, où on peut trouver le bouton jaune. Ben, c'est sur applediff.com. On a un compte sur X, il y a un compte sur Mastodon, on a un compte sur Blue Sky, fait qu'on est partout. Pour la petite histoire, c'est Audrey qui est plus sur les médias sociaux avec pour le podcast. Ben, ça t'en fait à gérer, hein, des médias sociaux en plus de ta chaîne, en plus de tout ça, c'est fou.
Cette semaine, je me disais, en fait, publier sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus long.
Ouais.
Surtout que maintenant, quand tu postes une image, bah, tu mets une petite description qui est parfois plus longue que le texte que tu mets, tu sais, la fameuse balise alt pour les non-voyants. C'est important de le faire, donc je prends le temps de le faire, mais je me dis, entre rédiger le message principal, la balise alt, et puis maintenant qu'on a X, Mastodon, Blue Sky, Facebook, Instagram... Ouais, ça commence à faire du monde et du temps à passer à communiquer là-dessus, à avoir les notifications, à répondre. Ouais, c'est assez chronophage. Le principal, c'est que vous nous contactiez, et puis n'oubliez pas que sur applediff.com, vous pouvez aussi nous envoyer un mail, hein, pour nous dire ce que vous avez à nous dire. On prend tous les compliments, on prend les reproches, on prend les remarques, on prend tout. Et utiliser bien évidemment le bouton jaune si vous voulez nous soutenir, même si, comme Matt l'a dit, il y aura du nouveau en 2024. On est en train d'y réfléchir.
Exact. Audrey, pour te rejoindre, parce qu'on parlait de médias sociaux pour Applediff, mais pour te rejoindre, toi, c'est quoi le moyen le plus simple pour suivre tes formations aussi? C'est où tout ça?
Alors, c'est sur tous les réseaux sociaux, @AudreyCoulot, et puis sur appleavecaudrey.fr. Et toi, Matt?
Et puis moi, on va faire ça simple, profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien. C'est le hub. Normalement, je suis pas mal sur toutes les plateformes aussi, mais profduweb.com, vous allez tout retrouver. On vous dit une bonne semaine. Et puis ben là, c'est la période des cadeaux. Alors, achetez des cadeaux, pas trop de cadeaux, achetez des cadeaux intelligents. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao.
À bientôt.